Les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Sylvie Barnet.
Sylvie Barnet, bonjour.
Bonjour Hélène.
Pour les mots du christianisme, vous avez choisi de nous parler des coptes aujourd'hui. D'où vient le mot copte ?
Le mot copte vient du mot grec égyptios, qui a ensuite été déformé pour donner le mot cuptios, lui-même traduit en français par copte.
Et que veut dire copte alors ?
Alors, les coptes, c'est un mot très joli qui désigne à la fois un peuple, une langue, mais aussi une église chrétienne en Égypte et un rite.
Comment s'est faite l'implantation du christianisme en Égypte ?
Alors, il y a toutes sortes de traditions pour raconter les origines du christianisme. C'est surtout à Eusèbe de Césarée que l'on doit quelques explications, parce qu'il dit que Marc est venu à Alexandrie et qu'il a prêché son évangile. Il y a même des versions ultérieures qui racontent qu'il aurait remanié son évangile à partir des contacts qu'il a eus avec les communautés présentes, et donc qu'il a implanté le christianisme à Alexandrie.
Mais on considère encore que ce sont des hypothèses, il n'y a pas de source véritablement écrite qui permette d'affirmer que Marc a fondé la première église égyptienne chrétienne.
Alors très vraisemblablement, il est certain qu'il y a des communautés juives qui petit à petit entrent dans le christianisme. Donc on peut parler d'une implantation du christianisme en Égypte dès les années 50 de notre ère. Et puis ensuite, ce christianisme primitif connaît le destin de toutes les églises naissantes. Il est pris dans l'Empire romain, puisque l'Égypte est romaine.
Et il va subir les persécutions aussi.
Il subit les persécutions, le martyre. Et puis arrive le moment où le christianisme est libre et s'implante comme religion d'État en Égypte, non sans mal d'ailleurs.
Est-ce que c'est la même date donc avec Constantin, 5e siècle je crois, ou 4e siècle ?
Dès le 4e siècle, le christianisme égyptien est solidement implanté, à tel point que c'est en Égypte que naît le monachisme. Et que la montée au désert se fait dans les déserts d'Égypte pour donner naissance à un christianisme très très proche de l'idéal, puisque les moines sont considérés comme des sortes d'anges sur la terre qui conduisent les autres hommes vers le ciel.
Néanmoins, il n'y a pas que des moines, il y a aussi des fidèles. Donc l'Église copte commence à s'organiser et peut commencer à vivre à partir du 5e siècle.
Alors l'Église copte se développe très intensivement jusqu'en 617. En 617, il y a une rupture dans l'église chrétienne copte, parce que tout simplement les musulmans prennent Alexandrie et c'est le début d'une islamisation de l'Égypte. Alors, c'est à ce moment-là, eh bien, que s'opère une sorte de face-à-face entre, d'une part, un islam égyptien et, d'autre part, un christianisme égyptien qui, lui, s'est séparé à la fois de l'église de Rome et de l'église de Byzance au lendemain du concile de Chalcédoine, en 451, pour des raisons théologiques très complexes, puisque notamment l'Église chrétienne d'Égypte refuse les idées développées au moment du concile sur la double nature du Christ.
Donc l'Église copte commence à s'organiser, elle ne se soumet pas ni à Byzance, vous venez de le dire, ni à Rome. Est-ce qu'elle forme une entité à elle toute seule ?
Alors, elle forme une entité à elle toute seule, d'autant plus que le pouvoir musulman qui s'installe sous la dynastie des Omeyyades, puis sous la dynastie des Abbassides, ne remet pas en cause la présence chrétienne en Égypte. Alors bien sûr, ils sont soumis aux impôts, ils reçoivent le statut de protégés, les dhimmis, mais c'est une communauté qui ne subit pas le joug, qui ne subit pas c'est une communauté qui ne subit pas les persécutions. Alors il y a quelques heurts entre les communautés et il y a des moments de tension très forts où des révoltes éclatent ici ou là, notamment à la fin du Xe siècle. Mais enfin, on peut dire que cette communauté chrétienne possède ses églises, voire même on a des preuves historiques, il y a des architectes qui sont requis par le pouvoir en place musulman pour pouvoir aller construire des mosquées. Donc, il y a une véritable église chrétienne qui s'autonomise avec son rite, avec ses églises, avec son art, son architecture, ses tapis, ses tissus qui deviennent célèbres dans le monde oriental. Donc, il y a une efflorescence d'un art chrétien copte qui montre toute l'efflorescence de cette communauté chrétienne en Égypte malgré la domination musulmane.
Alors vous faisiez allusion, Sylvie Barnet, aux rites, donc qui ne sont pas des rites romains et qui ne sont pas non plus les rites byzantins. Quelle est la particularité des rites coptes ?
Alors, la
ça
première
dépend
chose...
à quelle époque on se place,
oui,
vous allez
tout à fait.
Dire, voilà.
Et alors, la première chose que l'on peut dire, c'est leur longueur. Hein. Il faut s'imaginer une liturgie copte comme quelque chose de tout à fait magnifique. On est en Orient, une liturgie dure au moins 3 heures. Il faut s'imaginer les chants, il faut s'imaginer l'encens, hein, qui est censé élever l'âme des fidèles jusqu'au ciel.
En ce sens, il serait plus proche des orthodoxes que des catholiques romains, par exemple.
Alors, en fait, c'est un petit peu complexe parce que les coptes désignent à la fois les chrétiens catholiques, mais aussi les chrétiens orthodoxes et aussi les chrétiens protestants issus notamment des milieux missionnaires.
Hein, donc, oui, les coptes. Faut bien s'entendre sur le mot, alors.
Tout à fait.
Mais les rites sont longs, et donc, est-ce qu'il y a une participation des fidèles ou est-ce que c'est une affaire d'officiants ?
Alors, il y a une participation très, très active des fidèles. Et puis, alors, il faut aussi s'imaginer ce peuple des fidèles très impliqué. Il y a notamment de nombreux jours de jeûne en Égypte. Par exemple, entre le 7 et le 14 août, toutes les femmes coptes jeûnent en l'honneur de la Vierge Marie, donc pour précéder la fête de l'Assomption. Et puis vous avez des fêtes absolument magnifiques, il y a notamment une fête qui est très très vénérée par les Coptes. Le 1er juin, on célèbre la venue du Christ en Égypte, puisque selon la tradition, le Christ est venu en Égypte avec sa mère, porté sur un âne pour fuir le massacre d'Hérode. Et donc la tradition copte date,
célèbre encore cette
venue, voilà. En un jour fixé le 1er juin. Il y a même une église, l'église de Saqqa, où l'on va vénérer l'empreinte laissée par l'âne. Donc c'est tout dire de la vénération de ce peuple. Il faut nommer aussi tous les pèlerinages.
Il y a beaucoup de pèlerinages.
Il y a énormément de pèlerinages. On va vraiment sur les lieux que l'on croit avoir été visités par la Vierge, par les anges. Il y a même des apparitions très célèbres, comme par exemple en 1978 à Zaytoun, qui ont véritablement provoqué un rassemblement identitaire de cette population chrétienne copte, qui connaît aujourd'hui certaines difficultés.
Quels sont les chiffres actuellement ? Combien sont les coptes ?
Alors, vous avez deux versions. La version officielle, alors le dernier recensement date de 1976, qui dit que les coptes constituent à peu près 6% de la population. Et puis, vous avez la version copte qui, elle, fixe ce chiffre entre 10 et 20% de la population.
Oui, donc on ne sait pas exactement qui croire dans cette affaire.
On va dire entre les deux.
Voilà. Est-ce que les coptes ont à leur tête un chef copte comme il y aurait un pape ou comme il y a plusieurs grands chefs d'église orthodoxes ?
Alors, depuis le concile de Chalcédoine, les fidèles nomment ce chef un pape.
Un pape, hein ? C'est un pape copte.
C'est un pape copte. Actuellement, c'est Chenouda III.
Chenouda III, il s'appelle.
Chenouda III, qui a eu une forte implication politique dans les événements récents de l'histoire politique égyptienne, notamment depuis 1981, où l'Égypte connaît un regain d'activisme intégriste
oui,
musulman.
Les frères musulmans,
notamment les frères musulmans.
Dit, oui, trouvent en face d'eux, justement, les chrétiens coptes qui s'opposent forcément à leur...
Et alors là, vous avez deux sortes de réactions. Vous avez une réaction identitaire très forte du milieu copte qui a tendance à affirmer l'identité de son église de manière un petit peu figée et autoritaire. Et puis vous avez une très forte émigration qui date des années 1980, notamment vers l'Australie, le Canada et les États-Unis.
Merci de nous avoir éclairés sur les coptes. Et pour prolonger ce moment, je vous propose d'écouter un court extrait d'une liturgie copte que nous avons enregistrée au cours d'une messe dans une église copte du Caire.